quatessence du chyme, la partie utile qui doit aller rejoindre le sang, ce que nous avons appelé entre nous l'or des aliments. Et ils ont dit le chyle. Je vous donne le mot comme on me l'a donné, et je m'en lave les mains. Le reste, que devient-il? C'était bien ça notre question. Et le reste? Le reste, ma chère enfant, n'a pas d'histoire. C'est le sort, la punition, si vous voulez, de tout ce qui ne sert à rien. C'est ce qui arrive aussi à tous ces gens oisifs à la fois, et de la tête, et des bras, et du cœur, qui passent dans le monde sans lui rien donner. Inutiles et honteux fardeaux de la terre, la nature les expulse de son sein quand l'heure est venue, et voilà tout. L'on n'en parle pas autrement. Mais celui qui a fourni sa part, si petite qu'elle soit, à la vie commune de l'humanité, celui qui a enrichi d'une découverte, d'un procédé utile, d'un bon exemple, d'une idée juste, ce patrimoine universel que les hommes se repassent les uns aux autres, de génération en génération, celui qui a mis la main au triomphe d'une vérité, frappé sur une injustice, éteint une haine, allumé dans une âme le feu sacré de l'étude et de l'honneur, celui-là ne sort pas ainsi du monde qui a reçu quelque chose de lui. Si les livres ne parlent pas toujours de sa personne, perdue dans la foule des actifs de tous les temps et de tous les pays, il a été l'un des ouvriers de l'industrie humaine et de son histoire. Et cette histoire-là, c'est la sienne, que ce nom y figure ou non. Suivons donc les destinées de ce brave chyle qui s'est mis en état d'alimenter la vie du corps et dont chaque goutte va devenir du sang, de ce sang qui fait battre notre cœur, nourrit nos membres et met en jeu les fibres de notre cerveau. Quant au reste, laissons-le achever obscurément un voyage au bout duquel il n'y a rien. Voilà donc ce premier texte de Jean Massé, tiré d'un livre qui est un livre presque mythique de cette bibliothèque, Histoire d'une bouchée de pain, mais je dois laisser la parole à France.
Alors, avec Daniel, quand on a préparé la soirée, on a pensé que c'était vraiment très intéressant de la faire ici, parce que ce local n'est pas une simple cave où on entasse tous les objets dont on ne se sert pas au quotidien. Elle avait deux fonctions vitales. On y accédait là par cette voûte qui correspond à l'escalier en bout d'hôtel, sur le côté de l'hôtel, et on venait ici pour faire cuire son pain, comme l'atteste le four à pain qui se trouve ici. De quand à quand a-t-il fonctionné? Alors là, il ne sait. Et puis, au
17e de la fondation de l'hôtel de Gaulle.
Oui, jusqu'à ce que ce soit une école en 1880. Autre fonction vitale de cette cave, on venait y puiser l'eau. Là, derrière ce magnifique contreplaqué, il y a le puits avec son très bel arrondi de pierres jaunes intercalées. Ce sont des pierres toutes régulières, pas très grosses, mais très joliment arrangées. Alors, on venait donc y puiser l'eau. Bon, toutes les lectures qui vont être faites ce soir sont tirés de livres de la bibliothèque, soit figurant sur les rayons, soit figurant sur le catalogue. La bibliothèque était très riche en ouvrages de vulgarisation scientifique, mais il y en a encore beaucoup.
Sauf un, France, et je signalerai. Il faudrait que vous trouviez un jour, je vous l'offrirai. Là, je l'offrirai à la bibliothèque. D'accord. Alors j'ai commencé par un livre de Jean Massé. Jean Massé qui a participé au mouvement fondateur des bibliothèques populaires. J'ai noté là comme ça rapidement quelques indications quand même, parce que il n'y a pas que la lecture, il y a aussi quand même des commentaires un petit peu sur ce que j'ai lu. Alors Jean Massé, simplement sa date de naissance, il est né en 1815, et jusqu'en 1845, il est répétiteur au lycée Henri IV à Paris, et il quitte Paris à la suite du coup d'État, et il se retrouve, disons un peu journaliste dans un journal qui s'appelle La République, donc c'est là qu'il fait étalage de ses idées pro-républicaines, et après le coup d'État, comme beaucoup de journalistes républicains à cette époque, il est obligé de fuir, il fuit en Alsace, où là il commence son travail de pédagogue. Donc c'est un peu, non pas le hasard, mais des événements politiques qui l'ont conduit à s'intéresser à la pédagogie. Au départ, quand il était répétiteur au lycée Henri IV, il n'avait pas envie de se tourner vers la pédagogie, mais plutôt vers le journalisme et vers éventuellement l'action politique. Un deuxième
renseignements sur cette histoire de boucher de pain. Alors, il a écrit plusieurs livres de vulgarisation, mais celui-là est resté célèbre. Il est paru d'abord en feuilleton, c'est ça qui est intéressant, dans L'Ami des sciences, qui était un journal dirigé par Victor Meunier, qui là aussi est un grand vulgarisateur du 19e siècle. L'Ami des enfants, j'ai dit L'Ami des sciences, je crois. L'Ami des enfants était un grand journal pour les enfants, où il y avait une grosse partie de science, en particulier cette histoire d'une bouchée de pain qui paraissait en feuilleton. Alors, toutes les semaines, il y avait un chapitre, et il a été réuni pour la première fois dans les années 1860. Donc là, j'ai lu un passage sur la digestion, mais un autre passage qui est intéressant, c'est l'introduction, où il explique le rôle du vulgarisateur. Ce qui est intéressant dans tous ces livres, c'est dans les introductions, soit en préface, soit véritablement en introduction, les auteurs vont expliquer leur rôle. Et la manière dont Jean Massé définit son rôle d'intermédiaire entre la science et le grand public est intéressante à présenter. J'entreprends, ma chère petite, de vous expliquer bien des choses qu'on regarde en général comme très difficiles à comprendre et que l'on n'apprend pas toujours aux grandes demoiselles. Si nous parvenons, en nous y mettant à nous deux, à les faire entrer dans votre tête, j'en serai très fier pour mon compte, et vous verrez combien la science de messieurs les savants est amusante pour les petites filles, bien que ces messieurs prétendent quelquefois le contraire. L'histoire d'une bouchée de pain. Si c'est là ce que je veux vous raconter, vous me direz que ce n'est pas la peine, vous en savez là-dessus aussi long que moi, et je ne vous apprendrai pas la manière de mordre dans une tartine. Eh bien, vous ne vous doutez pas de la quantité incroyable de choses qu'il y a sous ce petit mot. Et quel gros volume nous pourrions faire si je voulais entrer dans tous les détails. L'autre jour, quand votre maman a déclaré que votre robe était devenue trop courte et qu'il a fallu vous faire la jolie robe à carreaux dont vous étiez si fière les premiers jours, d'où venait cela? Belle demande, c'est que j'avais grandi. Et comment avez-vous grandi, s'il vous plaît? Voilà prise. Il est bien sûr que personne n'est venu rallonger vos jambes pendant que vous dormiez, et que si les bras sortaient des manches, ce n'était pas parce qu'on avait remis un petit morceau au coude, comme on remet des planches à la table les jours où l'on donne à dîner à beaucoup de monde. Cependant, rien ne grandit tout seul, comme rien ne diminue non plus. Persuadez-vous de cela, une fois pour toutes. Si l'on n'a rien ajouté par dehors, il faut bien que quelque malicieux génie ait fourré par dedans tout ce qu'il y a de plus dans les bras, les jambes et le reste. Et ce malicieux génie, savez-vous bien qui c'est? C'est vous. Ce sont vos belles tartines, vos bonbons, vos gâteaux, la soupe aussi, et la soupe encore mieux que tout le reste, pour vous le dire en passant, qui, une fois disparus dans le petit gouffre que vous connaissez bien, se sont mis, sans vous demander la permission, à se transformer, à se glisser sournoisement dans tous les coins et recoins de votre corps, où ils sont devenus, à qui mieux mieux, des os, de la chair, etc., etc. Tâtez-vous de tous les côtés, ce sont eux que vous rencontrerez partout, sans les reconnaître, bien entendu. Vos petits ongles roses qui se trouvent repoussés tous les matins, le bout d'en bas de vos beaux cheveux blonds qui s'allongent toujours davantage, en vous sortant de la tête comme une herbe qui pousse hors de la terre, vos dents de grande fille qui montrent maintenant le bout de leur nez et remplacent à mesure celles qui vous étaient venues en nourrice, vous avez mangé tout cela il n'y a pas longtemps. Alors toujours le petit côté moralisateur. Là, il y a le pain, mais après, il y a la soupe. Il faut manger la soupe, sauf que la soupe n'avait pas la même consistance à cette époque que la soupe de maintenant. Alors, mise en place du dispositif de vulgarisation, avec plusieurs personnages, le savant, qui n'est pas présent ici dans ce livre, l'intermédiaire entre le savant et la petite fille, ici c'est Jean Massé, l'auteur, qui joue cette relation de pédagogue, et enfin, l'ignorant, celui qui ne sait pas, ici une petite fille. Alors, dans beaucoup de livres du 19e siècle, l'ignorant ou l'ignorante, ce seront des enfants, des jeunes filles, et des jeunes garçons aussi, mais souvent des jeunes filles, puisque c'est un peu le sommet finalement de l'acte pédagogique d'arriver à entrer dans la tête des petites filles, des choses, même les hommes ne croient pas qu'ils pourront leur entrer quelque chose. Voilà pour Jean Massé. Alors dans tous les détails, bien sûr, on va s'intéresser maintenant à la fabrication du pain. Mais vous avez le droit de vous servir.
Je parle. Alors.
Fabriquons du pain. Et pour nous parler de la fabrication du pain, alors voilà le livre qui ne vient pas de la bibliothèque des habits d'instruction. Le bagage scientifique de la jeune fille. Par mademoiselle Clarisse Jurinville et madame Pauline Berger. Et beaucoup de femmes qui ont écrit des livres, soit chez Hachette, soit chez d'autres libraires, et qui avaient véritablement vocation à la vulgarisation. C'est la dernière fois que j'y reviendrai, mais je voudrais quand même insister sur ce rôle des vulgarisateurs d'intermédiaire, parce que la mise en scène est agréable. Où l'on va voir pourquoi ce livre a été fait. Elles étaient là, assises en rond sur l'herbe, et elles causaient, elles riaient. C'était plaisir d'entendre leur joyeux babil. C'était plaisir de voir leurs joues fraîches et roses, leur air animé. Vraiment, leur institutrice avait eu une idée heureuse en donnant à ses fillettes comme récompense cette journée à la campagne. Et comme elles en profitaient bien de leur promenade. Après une copieuse dînette où les friandises étaient largement représentées, il faut soigner le dessert un jour de fête. Elles avaient pris leurs ébats en liberté. On avait joué à courir, à cache-cache, aux quatre coins. Plusieurs de nos jeunes étourdis étaient un peu décoiffés. Mais les grandes, les raisonnables d'habitude, étaient à bout d'haleine aussi. Toutes étaient lasses et se reposaient présentement en tirant de leur cueillette de fleurs un bouquet destiné à la maman. Mais si les jambes ne marchaient pas, les langues allaient bon train. Moi, disait Laure, je raffole des contes. Ah, si j'avais d'une fée la baguette magique. Que ferais-tu, demanda Rose avec malice. Ce que je ferais, fit Laure, les yeux tout agrandis de mille désirs qu'elle sentait confusément et ne savait comment exprimer. Oui, nous donnerais-tu de beaux habits? Nous en avons. Nous sommes habillés en dimanche, fit Marthe en se rengorgeant. Nous donnerais-tu des gâteaux, des bonbons? Pas la peine, il reste des fruits dans nos paniers, soupira Charlotte avec un regret de n'avoir plus faim. Nous donnerais-tu plus de plaisir que nous en avons aujourd'hui? C'est impossible, crièrent-elles toutes ensemble. Moi, reprit Aline, je voudrais seulement avoir une belle marraine, comme Cendrillon. Une marraine qui me protège. Nos mères sont les meilleures marraines qui soient, dit avec conviction Paul, qui était une des plus sérieuses de la classe. Moi, fit Claire, je rêve d'avoir un génie à mes ordres, comme Aladdin dans les mille et une nuits. Oui, dit vivement Rose, un génie qui te soufflerait tes leçons, n'est-ce pas? Et alors que tu n'aurais plus à les apprendre, tu deviendrais paresseuse. Un génie qui contenterait tous tes caprices, et alors tu serais insupportable. Je t'aime mieux comme tu es. Tiens, laissons de côté les choses inventées. Toutes maintenant riaient à se tordre. Quand la gaieté se fut un peu calmée, la bonne maîtresse prit la parole. « Je vous ai écouté, dit-elle. J'avoue que je suis déçue. Comment vous êtes là, une vingtaine, âgée de 12 ans et plus, et rien de sérieux ne vient dans votre conversation, rien du réel de la vie courante? Serait-ce que je ne vous ai pas obligé assez à jeter un coup d'œil autour de vous? Si vous saviez, enfant, comme en dehors des billevesées et des contes que vous venez de rappeler, il y a des choses intéressantes dans la nature, dans l'industrie. Et là, pour de bon, c'est du vrai, comme disait tout à l'heure petite Jeanne. Allez, madame, parlez-nous-en, dit Suzanne. Oh oui, racontez-nous quelque chose. Madame, rendez-nous savante. Savante, oh non, fit modestement l'institutrice. Mais instruite, ce qui n'est pas la même chose. Je voudrais qu'en quittant la classe, chacune de vous emporta un ensemble de connaissances variées qui permit de dire d'elle... Elle sait ce qui est indispensable de savoir. Elle peut parler d'une manière exacte sur 1000 choses utiles, pratiques, usuelles. Elle connaît le parce que des nombreux pourquoi de la vie journalière. Madame, supplia Rose, si vous vouliez nous apprendre tout cela, comme nous vous écouterions. Oui, oui, c'est cela, firent-elles toutes. Soit, reprit la maîtresse. Je vais grouper les sujets en question, les réunir en des espèces de monographies qui se graveront ainsi facilement dans votre mémoire. Et qui sait, seront pour plusieurs une excellente préparation à des examens. Ce que j'aime bien dans ce texte, bon, à part le fait de l'écriture à la fin, la petite morale, c'est qu'il montre que beaucoup de ces vulgarisateurs ou vulgarisatrices avaient une envie, c'était de renverser, de déplacer un petit peu les contes de fées. Ils considéraient que les contes de fées étaient de la vulgaire tisane qu'on offrait ainsi aux enfants, et qu'il fallait leur offrir autre chose, en particulier la science. Et ils ont donc systématiquement essayé de faire des petites histoires de cette science, et donc de nous la présenter sous forme de petites histoires, parfois mettant en place des petits théâtres, comme on va le voir avec le pain. Mangez un morceau de pain. Quoi de plus simple, mes enfants? Chaque jour, vous le faites sans y attacher d'importance. Et pourtant, pour vous procurer ce morceau de pain qui, de tous les aliments, est le plus sain et le plus nécessaire à la vie, combien il a fallu de temps, de peine, de gens,
occupé pour vous le procurer. Vous souriez, et cela vous étonne. Eh bien, moi, je vous dis que la fabrication d'un morceau de pain, c'est comme une pièce de théâtre. Et oui, comme un spectacle joué par trois acteurs principaux avec des décors différents. Jugez-en vous-même. Premier acte. Décor. Une plaine immense. Le ciel, sombre d'abord, sera ensoleillé sur la fin. Personnage, le laboureur. En octobre ou novembre, le laboureur, d'un geste large et rythmé, a jeté la semence dans les sillons qu'il avait préparés d'abord avec sa charrue. La herse, le rouleau ont recouvert le grain, et jusqu'au moment de la moisson, la terre a travaillé. Dans son sein fécond, le grain a grossi, s'est amolli. Il a poussé hors du sol une petite pointe semblable au brin d'herbe. Au printemps, cette herbe, devenue tige, était haute déjà comme un enfant qui commence à marcher. Au bout de la tige, une poussière grise s'est amassée. Cette poussière est devenue du grain, et les épis de blé ont mûri au soleil de l'été. Avec la faucille ou la faux, il a fallu faire la récolte en juin ou juillet, c'est-à-dire moissonner. Le blé coupé a été laissé à terre pour bien sécher, puis on a lié en gerbes, et les gerbes, d'abord entassées dans les champs, ont été rentrées en grange avant la saison pluvieuse. Alors, au moyen du battage, on a séparé le blé de la paille. La tâche du laboureur était achevée. Dans les grandes exploitations, quand le temps est propice, le battage a lieu en plein air. Deuxième acte. Décor. Un moulin, dont les ailes tournent au vent. Son tic-tac appelle l'ouvrage. La route qui mène est poudrée à blanc. À votre choix, supposez un moulin à eau avec le bruit sourd de ses roues qui battent l'eau, ou encore un moulin à vent avec ses ailes déployées. Personnage, le meunier, tout enfariné. Le grain étant mis à part, on l'a porté au moulin. Le meunier a dû le moudre en le faisant passer entre deux meules ou pierres circulaires, plates, épaisses, très lourdes, placées l'une sur l'autre, qui l'ont écrasé. Il l'a bluté, c'est-à-dire qu'il a séparé à l'aide d'un tamis la fine farine d'avec le son. Cette peau jaune qui est l'enveloppe du grain. La farine peu blutée, c'est-à-dire contenant encore une forte proportion de son, donnera le pain de munitions que mangent nos soldats, nos chers petits troupiers. La farine de froment sera portée au boulanger. Troisième acte. Décor, un fournil, le four fortement chauffé au bois sec, à côté, le pétrin. Personnage, le boulanger, le buste découvert, en train de pétrir. Le boulanger a versé la farine dans son pétrin, sorte de coffre en bois de chêne. Au milieu, il a délayé du levain avec de l'eau chaude, du sel et le tiers de la farine. Ce levain, qui est de la pâte qu'on a laissé aigrir, ou de la levure de bière, le boulanger a couvert le pétrin et a laissé toute la nuit reposer sa pâte. Le lendemain, il a versé une eau plus chaude que la veille et a délayé peu à peu le reste de la farine, puis il s'est mis à pétrir, c'est-à-dire à brasser la pâte. On dit qu'il jeûne en pétrissant. Cela se comprend. Sa besogne est si rude. Et puis, sa plainte aide son travail. La pâte pétrie, il a divisé en morceaux, les uns ronds, les autres allongés, qu'il a mis dans des panetons, où Corbeil gardit une grosse toile. Panetons, jeun, d'ailleurs, ce sont tous des mots mis en italique. C'est les mots scientifiques qu'il faut retenir de la leçon, sur laquelle portera l'interrogation après. Attention. Puis il a laissé revenir le pain, de nouveau mot en italique. Revenir le pain, c'est-à-dire qu'il a laissé la fermentation bien gonfler la pâte et y produire les trous ou yeux dus au gaz que la fermentation produit et qui rendront le pain facile à digérer. Tenez. Cela fait, il a chauffé le four avec du bois mince et sec qui flambe bien. Le four, chaud à 300 degrés et nettoyé de la braise, il y a introduit à l'aide d'une longue pelle tous les morceaux de pâte. C'est ce qu'on appelle enfourner. Il a refermé la porte du four. Au bout d'une heure environ, La couleur dorée de la croûte ferme et passante a montré que le pain était cuit, et le boulanger l'a sorti du four, l'a brossé pour en enlever toute trace de braise, et l'a porté dans la boutique où vous, enfant, êtes venu l'acheter. N'avais-je pas raison de vous dire qu'il avait passé par bien des mains avant de venir dans les vôtres ? Je vous recommande de ne jamais manger le pain tout chaud, car il ferait éponge dans votre estomac et vous ferait mal. Je vous recommande de n'en jamais perdre, car toutes les sueurs qu'il a coûtées le rendent précieux. Enfin, vous montrerez votre bon cœur, si vous plaignez ceux qui en manquent et si vous venez à leur aide. C'est le pain qui nourrit le monde à la ronde, heureux qui se voit certain d'avoir toujours du pain. Comment terminer ce chapitre sur le pain, sans citer ces délicieuses petites fables du poète aimé des enfants, Monsieur Ratisbonne. On a beau la connaître, on aime à la redire toujours. Avant de la dire, je me pose une question. Quand même, cette fable était célèbre au 19e, elle plaisait aux gens puisqu'ils l'ont imprimée. J'ai quand même du mal. Je vous la livre telle que. Le pain quotidien. On ne s'arrête pas en disant sa prière. Voyons, ne reste pas cette fois en arrière. Recommence avec moi le pater et dis bien, donne-nous le pain quotidien. Le pain ? Eh bien, encore, pourquoi donc cette pause ? Et pourquoi marmotter tout bas de ces mots que je n'entends pas ? Chère maman, voilà la chose. Je priais le bon Dieu, car le pain c'est bien sec, de nous donner toujours un peu de beurre avec. Ah oui, on va passer au beurre. Encore un cas de falsification de beurre à Paris. Après le safran, les fleurs de souci, le sucre de Kélidouane, voilà le chromate de plomb qui vient de sortir des athanors des chimistes. Où s'arrêteront les chimistes fraudeurs? Ça, c'était en 1910. En 1910, le problème, c'était les fraudes au beurre. En fait, il y avait beaucoup de fraudes sur l'alimentation, et pour le beurre, c'était le problème de couleur. C'était pour colorer. Ouais, c'était pour colorer le beurre. Donc, ils utilisaient le safran, la kélidouane. C'est absolument, c'est toxique, le sucre de kélidouane. Le chromate de potasse.
C'est une plante,
c'est l'herbe à verrues. Oui, alors j'allais pas vous parler du beurre de la même manière, donc il était intéressant maintenant de voir combien tous les problèmes sont abordés par les vulgarisateurs, et là c'est le problème des fraudes. Alors pour me parler de ces fraudes, un livre de la collection Bibliothèque des Merveilles, une collection inventée par Édouard Charton et Louis Hachette. Alors Édouard Charton qui était un sénateur républicain, qui a été aussi ministre de l'Instruction publique, il me semble, à un moment. Louis Hachette avait tous deux fait partie des premières promotions de l'école polytechnique. L'école polytechnique, les scientifiques de l'école polytechnique, autour de François Arago, ont eu un rôle très important dans la vulgarisation des sciences. Louis Hachette a eu une idée extraordinaire en 1845-47. Il a voulu imiter ce qui se faisait en Angleterre, et il a voulu suivre le développement du chemin de fer avec une collection de livres à petit prix. Et c'est là qu'a été inventée la bibliothèque bleue, la bibliothèque, même tout ce qui allait devenir la bibliothèque verte, et les fameux guides aussi. Ces livres qui étaient vendus à petit prix, donc dans les kiosques des gares, pour que les voyageurs puissent avoir, pour pas cher, un livre à lire pendant le voyage. Et le premier livre de cette collection, il y en a beaucoup ici, je crois que celui-là y est d'ailleurs, mais celui-là y est. Et le premier de cette collection, le choix du livre et le choix du titre n'est évidemment pas innocent, de cette association entre le temps libre et le temps livre, si vous me permettez ce jeu de mots, c'est une biographie de Gutenberg, l'inventeur de l'imprimerie, écrite par Alphonse de Lamartine. Et ensuite, ils ont su mobiliser beaucoup de scientifiques et beaucoup de vulgarisateurs. Et c'est une collection qu'on peut retrouver chez les bouquinistes, sous cette forme-là, quand elle est une belle jaquette bleue, qui était vraiment la grande collection de la deuxième moitié du 19e siècle. C'est une collection dans laquelle on apprend beaucoup de choses, contrairement aux livres de maintenant qui sont assez purs, assez épurés. C'est surtout des livres de connaissances. Là, c'est des livres qui parlent de tout. Là, dans ce livre qui s'appelle donc Les Merveilles du Monde Invisible, qui est écrit par Wilfried de Fonvielle. Wilfried de Fonvielle, c'est aussi un grand vulgarisateur qui faisait des conférences populaires, qui a été lui aussi expulsé après le coup d'État de 1851. Il faisait partie de ces jeunes gens qui ont attaqué la Chambre des députés. Donc, il est parti en Algérie et puis il en est revenu après l'amnistie. Dans ce passage, donc, qui s'appelle « L'œil de la justice ». Un de mes amis était autrefois délégué comme expert dans la poursuite des délits commis par les marchands de denrées alimentaires. Le spectacle de la corruption profonde de certains spéculateurs, lui fait prendre parfois l'humanité en dégoût. « Je ne peux songer, dit-il, sans effroi, à la perversité des gens qui ne craignent pas de compromettre la santé de leurs semblables pour gagner à chaque crime quelques fractions de centimes. Il a fait condamner un minotier qui ne se contente pas de remplacer le froment par des céréales inférieures ou même par de la fécule de pommes de terre malade. Ce spéculateur augmente le volume de ses marchandises avec l'alun, substance presque purgative. Rendons grâce à l'honnêteté relative des fraudeurs qui se contentent d'augmenter le poids de leur farine avec une substance inerte comme le plâtre de Paris. Ce produit minéral est même, en ce sens, l'objet d'un grand commerce pour les gens qui ont des ulcères. Il est si précieux, si inestimable pour ces industries néfastes qu'il s'exporte même jusqu'en Angleterre où la falsification s'opère sur une échelle proportionnée aux appétits de la population. Le crime entre en lutte ouverte avec la répression et montre une énergie, une intelligence qui m'ont toujours frappé. Heureusement, le microscope vient à notre aide, lui, l'arme de l'honnêteté. Il est, pour ainsi dire, impossible de le corrompre et de le tourner au service du crime, qui ne sert jamais qu'à demi, comme un soldat qui tire en l'air pour ne point fusiller ses frères. Comment voulez-vous que l'homme, tigre, qui vient de sacrifier la vie d'un de ses semblables à une cupidité féroce, à une passion impure, à un désir insensé de vengeance, aille explorer non pas au microscope composé, mais même à la loupe, le théâtre de son forfait? Comment supposer le loisir et le sang-froid nécessaires pour sonder les replis de ses vêtements, pour explorer chacun des clous qu'il porte à ses souliers? Ce n'est pas une balance, mais le microscope en main, que je représenterais Ténis, si j'avais l'honneur d'être peintre ou poète. N'est-ce point en effet avec le microscope qu'elle peut recueillir les dires de 1000 témoins cachés? Malheureusement, l'éducation du public est encore à faire. On comprend que la police municipale ne peut être partout à la fois dans les cas, et que par conséquent sa vigilance ne peut empêcher les citoyens d'être pillés dans leur fortune et dans leur santé. Quoique la loi cherche à le faire, il n'y a véritablement de bien protégés que ceux qui veillent eux-mêmes au salut de leur bourse et de leur estomac. Prenez l'habitude de manier le microscope, et vous serez sauvés de cette multitude de petits délits qui tuent un peu plus chaque jour. Vous échapperez à une foule de malaises, de maladies provenant de poisons alimentaires qu'on débite chez l'épicier et le marchand de comestibles sous prétexte de truffer les dindons. Soumettez à l'appareil le plus simple, le plus commode, les substances susceptibles d'être fraudées, et vous rétrécirez tellement l'air de la supercherie que la probité deviendra une vertu très pratique pour tous les boutiquiers. La fraude sera bientôt la plus ridicule de toutes les spéculations. Voilà un fournisseur qui vous a vendu du café fabriqué de toutes pièces dans ses caves. Rien ne vous est plus aisé que de le saisir en flagrant délit, car la matière qui vient honnêtement des îles d'Amérique ou d'Arabie vous montrerait une foule de cellules polygonales qui brillent par leur absence. Vous ne trouverez dans cette denrée fétide que la fibre de la sûre torréfiée qui a été mélangée à la votre poudre. Vos fournisseurs pratiqueront moins facilement la petite morale quand ils sauront que vous maniez le grand confesseur des fraudes. Ils n'achèteront plus la discrétion de votre soubrette s'ils savent que vous vous entretenez avec le bavard qui raconte comment la partie mucilagineuse de la chicorée et le granule d'amidon ont été élevés par la grâce de Mercure à la dignité de plantes aromatiques. Bon, ben voilà comment on peut truander, mais on peut aussi surveiller la fabrication du café. Bien, c'est peut-être le moment d'en prendre un petit café. Avec un peu de café, mais aussi beaucoup de chocolat. Et puis j'ai trouvé alors sur le café un poème d'un poète de Lille, un poète du début du 19e siècle. Il est une liqueur au poète plus cher, qui manquait à Virgile et qu'adorait Voltaire. C'est toi, divin café, dont l'aimable liqueur, sans altérer la tête, épanouit le cœur. À peine j'ai senti ta vapeur odorante, même décaféinée, soudain de ton climat, la chaleur pénétrante réveille tous les sens sans trouble et sans chaos. Mes pensées, plus nombreuses, accourent à grands flots. Mon idée était triste, aride, dépouillée. Elle rit, elle sort, richement habillée. Et je crois du génie éprouvant le réveil, boire dans chaque goutte un rayon. Le soleil. Le café. Voici maintenant l'histoire du caféier. C'est une histoire qu'on trouve dans Voyage scientifique autour de ma chambre, d'Arthur Mangin.
Arthur Mangin fait une transformation du voyage autour de ma chambre et il exploite tous les objets de la vie quotidienne pour en sortir un petit peu de science. Et pour le café, ce qu'il trouve intéressant à raconter, et je l'approuve, c'est l'histoire du caféier. Quelques mots sur Arthur Mangin, mais il est né en 1824. Bon, ensuite, il a suivi un cours de chimie d'un célèbre chimiste de l'époque, le professeur Pelouze. Il a arrêté son cursus en 1848. Pourquoi ? Parce qu'il a fait la révolution. L'étudiant Mangin donc prend une part active au mouvement en 1848. Là, il entre au ministère de l'Instruction publique avec François Arago. Et puis, il collabore rapidement à des journaux comme le Phare de la Loire, au Journal officiel, au Nouveau Journal des connaissances utiles, au Magasin pittoresque, au Musée des familles. Donc, vous pouvez trouver quelques exemplaires là-haut. Et il écrit plein de livres, des livres d'histoire, études historiques sur la révolte du Bengale, et beaucoup de livres de vulgarisation des sciences, alors j'en cite quelques-uns, 14 rééditions pour délassement instructif, de 1855 à 1893, 14 aussi pour le feu du ciel, de 1861 à 1894. Les mémoires d'un chêne n'en ont que 4. Voici maintenant l'histoire du caféier qui fut transplanté du Jardin du Roi, c'est l'ancien nom du Jardin des Plantes à Paris, à la Martinique au commencement du siècle dernier. C'est un de Jussieu, Antoine de Jussieu, frère aîné de Bernard de Jussieu, qu'on doit l'acclimatation de cette plante dans les colonies françaises des Antilles, d'où elle s'est répandue dans toutes les régions tropicales du Nouveau Monde. Le café, jusque-là, était connu en France, mais il ne mûrissait qu'en Arabie, et coûtait fort cher. Quant à l'arbre lui-même, c'était un objet de curiosité dont on n'eût pas trouvé en Europe plus de 4 échantillons. Le bourgmestre d'Amsterdam, selon les uns, le Stadhouder des Provinces-Unies, selon les autres, en avait donné un à Louis XIV, qui avait daigné l'accepter et le confier au professeur près de son jardin botanique. On a prêté gratuitement au grand roi ou à son ministre Colbert la pensée de faire tourner ce présent à l'avantage des colonies et du commerce français. Il ne semble pas que Colbert y ait songé, et Louis XIV était bien trop occupé de guerre, de politique, d'étiquette et de galanterie pour accorder sa royale attention à de pareilles bagatelles. Cela était bon pour des naturalistes. Ceux-ci accueillirent avec joie le pied de caféier offert par les Hollandais. Ils l'entourèrent des soins les plus assidus et firent de leur mieux pour le reproduire dans les serres du jardin. Ils en obtinrent quelques boutures. Mais c'était pitié de cultiver le caféier dans des serres où les plantes étouffaient, faute d'air, ne puisaient dans le sol artificiel qu'on leur faisait de toutes pièces, qu'une alimentation insuffisante et peu salubre, et manquait d'espace pour développer leurs rameaux. De Jussieu pensa qu'il serait bien plus sensé de l'envoyer en quelque pays où le retrouva, comme dans sa patrie, avec une terre vierge et féconde, la chaleur vivifiante du soleil des tropiques, la fraîcheur humide de leur nuit, et les flots abondants et tièdes de leur pluie périodique. La Martinique lui parut d'offrir les conditions les plus favorables à une première expérience. Un jeune enseigne de vaisseau, plein de zèle pour le progrès des sciences et ami d'Antoine de Jussieu, le chevalier Desclieux, partait pour cette colonie. Le botaniste lui remit la meilleure, la plus vigoureuse de ses boutures, en lui recommandant de ne rien négliger pour l'amener saine et sauve à destination. Et il s'en remit à lui, une fois arrivé, pour en faire l'usage qui lui paraîtrait le plus profitable. Desclieux promit de se montrer digne de l'importante mission qui lui était confiée et de veiller sur le frêle arbuste comme sur un enfant malade. La traversée fut longue et pénible. L'eau vint à manquer. Alors, ainsi que cela se pratique en pareil cas, chaque homme, officier ou matelot, fut rationné. Le caféier n'était point compris dans la distribution, et il eût péri si Desclieux, fidèle à sa personne, n'eût partagé avec lui sa ration personnelle et ne fût parvenu ainsi à le conserver. Suivant quelques auteurs, Desclieux aurait reçu d'Antoine de Jussieu 3 pieds de caféier, mais malgré ses efforts et son dévouement, 2 seraient morts en route. Quoi qu'il en soit, un seul parvint à la Martinique, et fut le père commun des milliers d'arbres qui ont peuplé depuis les plantations des Antilles et de l'Amérique méridionale. C'est un pied de langue qui arrive. Pendant 10 ans, les scientifiques du muséum le cultivent sous serre. Alors, c'est d'ailleurs l'origine des serres du jardin des plantes. Guy Cressan-Fagon, qui était le médecin de Louis XIV, et en même temps le superintendant, l'intendant du jardin des plantes, a eu l'idée de fabriquer des serres quand on lui a amené le caféier. Jusqu'à cette époque, on recevait une plante des pays tropicaux, on faisait une serre par plante. Et Guy Cressan-Fagon a l'idée de faire plein de serres, des grandes serres. Alors il fait des grandes serres, mais du coup on y met plein de plantes, et comme le dit Arthur Mangin, toutes les plantes sont trop serrées, il n'y a pas assez d'espace, donc il faut trouver une solution. Et en même temps, ils avaient une autre idée qui était extrêmement intéressante, qui était de faire jouer au Jardin Royal des Plantes Médicinales une sorte de ce que j'appelle la garde triage. On reçoit des espèces végétales ou animales des pays des tropiques, on les acclimate et on voit dans quel pays du monde on peut les amener, faisant ainsi l'inverse de ce qui s'était passé avec la tomate, ce genre de pommes de terre qui venaient d'Amérique. Donc à partir de cette époque, de 1702-1710, jusqu'à finalement une acclimatation ratée, qui est celle du kiwi. Le kiwi, qui s'appelle la Tinea sinensis, donc il vient de Chine, en 1920, ils ont réussi leur acclimatation, mais les paysans n'ont pas pris le kiwi. Donc c'est les Néo-Zélandais qui ont été envoyés ailleurs, ça a marché. Et après on a créé la ménagerie pour la même raison, acclimatation des animaux. C'est ce qui s'est passé en 1750, donc un peu avant l'ouverture de la ménagerie, avec les moutons d'Espagne, les moutons mérinos, quand la France a eu un embargo là-dessus. Non, les moutons mérinos venaient d'Espagne. Même idée, amener les moutons de mérinos à la bergerie royale de Rambouillet, les acclimater et les développer. C'est-à-dire que la science de cette époque était une science pure et en même temps appliquée. Effet physiologique du café. Alors c'est tiré ça d'un traité de l'alimentation dans ses rapports avec la physiologie, la pathologie et la thérapeutique. Par le docteur Jules Cyr, médecin inspecteur adjoint à Vichy. Alors ça, il y en a beaucoup, dans le fond, on a regardé le jour avec France. Alors, c'était l'époque où il y avait le développement du raspaillisme aussi. Jacques Rancière en a parlé dans un bouquin, je ne sais plus lequel, mais Raspail qui essayait de développer cette idée parmi les ouvriers, qu'ils pouvaient être autonomes par rapport à leur santé. C'est-à-dire qu'ils pouvaient s'émanciper des médecins et décider eux-mêmes, analyser eux-mêmes leur maladie et trouver leur propre médication, d'une certaine manière. Donc c'est pas étonnant de retrouver ici beaucoup de livres de ce type. Raspail était déjà mort en 1860 et des poussières, mais ce message a produit très longtemps, puisqu'il faisait un manuel annuaire de la santé. Effet physiologique du café. L'action du café diffère suivant qu'on le prend à jeun ou immédiatement après le repas. Dans l'état de vacuité de l'estomac, l'infusion est plus vite absorbée, et les effets s'en font sentir plus vite et plus énergiquement. Voici donc ce que peut ressentir dans ces conditions une personne chez laquelle l'habitude n'a pas trop émoussé l'intensité de cette action, et qui prend à jeun une grande tasse d'infusion de café assez concentrée, 125 grammes par exemple, pour un demi-litre d'eau. Le premier effet est une sensation de fraîcheur au front et dans la tête. Puis la circulation générale est accélérée. Le pouls devient plus plein, plus fort. Certaines circulations locales sont généralement activées, notamment celles du cerveau. Les fonctions des reins et de l'intestin sont aussi stimulées, soit par suite de la suractivité de la circulation locale, soit par excitation directe du système nerveux. Il en résulte un effet diurétique et un effet laxatif, tous deux presque immédiats. Le premier est constant et peut être attribué en partie à l'eau chaude du café. Le second appartient tout à fait au café et on peut en tirer parti dans des cas qui ne réclament qu'un effet très passager et nullement énergique. C'est peut-être à cette action sur l'intestin qu'il faut attribuer les quelques succès obtenus par l'infusion de café dans des cas de hernie étranglée. Dans cette circonstance, le café agirait en excitant la contractibilité des fibres musculaires de l'intestin. Une autre action du café, non moins curieuse, et sur la cause primitive de laquelle on n'est pas trop d'accord, c'est cette espèce d'anxiété épigastrique consécutive aux premiers effets qui, partant du centre organique, s'étend à la périphérie, est accompagnée d'hérétismes nerveux, de tremblements et d'impatience dont les membres, d'un besoin impérieux de motilité, tout phénomène parfaitement observé, même par les auteurs du siècle dernier, et qui témoigne d'une excitation nerveuse générale. Cette excitation est-elle sous la dépendance directe du système nerveux cérébro-spinal ou bien sous celle du système ganglionnaire? C'est là un point qui n'est pas encore suffisamment élucidé. L'influence du café sur les fonctions du cerveau a été si bien et si souvent affirmée et démontrée qu'il serait superflu de donner de nouvelles preuves à l'appui.
Comme nous l'avons dit plus haut, la température de l'infusion, en produisant un afflux de sang vers l'estomac, dégage le cerveau et donne une sensation de fraîcheur très manifeste, surtout lorsqu'on est atteint de céphalalgie. Le système sanguin du cerveau se trouvant ainsi partiellement désobstrué, la circulation y reprend ensuite un cours plus libre, et par l'accélération qu'elle éprouve de la part du café, active, dans l'organe de la pensée, le mouvement d'assimilation et de désassimilation, et par suite, le rend apte à un fonctionnement plus énergique. C'est ce qui fait donner au café le nom de boisson intellectuelle, dénomination parfaitement justifiée et appuyée par un grand nombre d'écrivains éminents. Nous pourrions citer en effet Voltaire, Fontenelle, Rousseau, Rochefort, Balzac au Jardy, ou dans sa retraite de la rue Cassini, se livrait à de vraies orgies de café. Sa tasse était une soupière. À la suite de pareilles rasades prises le long de la soirée, il procédait, vers le milieu de la nuit, au pénible labeur de la composition rendue aisée sous l'influence de cette ivresse de café. Il ne faudrait cependant pas exagérer, comme on l'a fait, la part du café dans cette activité créatrice. C'est en vertu de cette excitation générale de l'organisme, et en particulier du cerveau, que le café est le meilleur anti-soporifique connu et un excellent contrepoison pour les substances stupéfiantes et notamment pour l'ivresse alcoolique. Enfin, on attribue au café un effet anaphrodisiaque des plus marqués. Alors, je ne sais pas si Anna, c'est le privatif,
oui,
c'est aphrodisiaque, c'est privatif. Je ne bois plus de café. Bien que cette assertion ait été soutenue par le professeur Trousseau, celui de l'hôpital, et avec la plus entière conviction, elle est loin d'être admise généralement. Il est plus exact de dire que sous ce rapport, l'influence du café varie suivant les habitudes et les tempéraments. Nous sommes sauvés. Peut-être même ne serait-il anaphrodisiaque que par suite d'une trop grande excitation, de sorte que chez ceux qui sont ou un peu moins impressionnables ou un peu moins sensibles à l'action du café, le sens génésique serait activé, tandis que chez les autres plus nerveux, il serait atténué absolument comme une excitation modérée active l'influx nerveux et une excitation trop forte ou trop prolongée peut le paralyser. On va terminer par deux passages. C'est sur le pain. Le pain, c'est quand même un aliment un peu mythique et mystique. Il représente le corps du Christ. Et à ce pain, aliment mythique, mystique, je vous propose une lecture d'un livre mythique, et peut-être aussi mystique d'une certaine manière, Le Tour de France de deux enfants. Il aurait été étonnant qu'on ne rencontre pas le pain dans Le Tour de France des deux enfants. Alors, je ne sais pas s'il y a une personne ici qui ne connaît pas Le Tour de France de deux enfants. Je vous rappelle quand même que la première édition est de 1877, que son auteur, c'est Madame Alfred Fouillet, qu'on en a vendu, dont le mari est maître de conférence à l'École normale supérieure, que 8 400 000 exemplaires ont été vendus jusqu'à maintenant. Ça fait une moyenne de 80 000 par an. 3 millions les 10 premières années. Mona Ossouf l'appelle le petit livre rouge de la République dans la conférence. Donc je ne m'attarde pas parce qu'en fait, il y a une très belle présentation de Mona Ossouf, les actes du colloque qui ont lieu ici. Vous retrouvez la conférence de Mona Ossouf sur le Tour de France des deux enfants. Je crois que c'est elle qui rajoute pour la première fois, je ne sais plus où je l'ai lu pour la première fois, mais que dans l'édition de 1906, les deux enfants, donc André et Julien, ne rencontrent pas Pasteur dans ce livre-là quand ils passent près d'Arbois. Par contre, à l'édition de 1906, c'est-à-dire 10 ans après la mort de Pasteur, Madame Fouillet le rajoute, mais en épilogue. Et Pasteur devient le symbole du bon savant français qu'il faut vénérer. Alors, je ne vais pas vous parler du pain, en fait. J'ai choisi le lait. C'est le lait. Une visite à la laiterie, la crème, le beurre. Ce qu'une vache fournit de beurre par jour. Quel joli plancher propre et bien carrelé, dit Julien en entrant dans la laiterie. Tiens, les fenêtres et toutes les ouvertures sont garnies d'un treillis de fer, comme une prison. Pourquoi donc, madame ? C'est pour que les mouches, les rats et les souris ne puissent pas entrer. Avant les malheurs de la guerre, nous étions plus à l'aise. J'avais 6 vaches au lieu d'une. Je faisais beaucoup de beurre. Aussi ma laiterie comme mon étable était soigneusement installée. Voyez ce carrelage dont elle est recouverte. Il me permet de la laver à grande eau. Et cette eau s'écoule par les rigoles que voici. Il faut au lait une grande propreté. Et tout doit reluire chez une fermière qui fait son métier. Comme il fait frais ici, reprit Julien, en s'avançant dans la salle un peu sombre, autour de laquelle étaient rangées des jattes de lait. Mon enfant, il faut qu'il fasse frais dans une laiterie. S'il faisait chaud, le lait aigrirait, et la crème n'aurait pas le temps de remonter à la surface. Regardez ces grands pots. Ils sont tous couverts d'une épaisse croûte blanche,
que je vais enlever avec ma cuillère pour la mettre dans la baratte. C'est la crème. Passez le doigt sur ma cuillère et goûtez. Julien goûta. C'est meilleur encore que le lait, cette bonne crème. Je le crois bien, dit la fermière. Maintenant, avec cette crème, nous allons faire le beurre. Et, versant dans la baratte toute la crème qu'elle avait recueillie, elle se mit à battre avec courage. Au bout de quelque temps, elle s'arrêta et levant le couvercle. « Voyez, Julien, dit-elle, l'enfant regarda et vit flotter dans la baratte de légers flocons jaunes de paille qui étaient déjà nombreux. « Oh, dit-il enchanté, voilà le beurre qui se fait. » Pendant qu'on causait, le beurre s'acheva. La fermière l'égoutta et le lava avec soin, car le beurre bien égoutté et lavé se conserve mieux. Puis elle le mit en boule et chargea Julien de dessiner avec la pointe du couteau des petits losanges sur le dessus. Il s'appliqua consciencieusement à cette besogne, et le beurre avait bonne mine quand Julien eut achevé son dessin. « Mais, s'écria-t-il, toute la crème n'est pas devenue du beurre. Qu'est-ce que tout cela qui reste ?»« C'est le petit lait. » »« On le donnera au porc, délayé avec de la farine pour les engraisser. Au besoin, j'en fais aussi de la soupe, quand nous n'avons pas grand-chose à manger. » « Il faut donc bien du lait pour faire du beurre ?» demanda Julien tout surpris. « Eh oui, cher enfant, 15 litres de lait de Bretonne ne font qu'un kilogramme de beurre. Et pourtant, Bretonne, comme les vaches de sa race, est une merveille. Il y a d'autres vaches dont il faut jusqu'à 25 litres pour faire un kilogramme de beurre. Mais Julien, vous allez devenir savant dans les choses de la ferme, comme si vous vouliez être un jour fermier, vous aussi. » L'enfant rougit de plaisir. « Vrai, dit-il, c'est un métier que j'aimerais mieux que tous les autres. » « Mais dites-moi encore, je vous prie, combien Bretonne vous donne-t-elle de litres de lait par jour ?»« 7 litres au plus, l'un dans l'autre. »« Alors il faut donc plus de 2 jours à Bretonne pour donner 1 kilogramme de beurre ?»« Précisément, mais comme vous comptez bien, mon enfant, il y a plaisir à causer avec vous. » Un instant après, la fermière sortit de la laiterie avec le jeune garçon et tous deux portaient à la main de belles boules de beurre enveloppées dans des feuilles de vigne que Julien était allé cueillir. Alors, juste là, quand même, une petite particularité. Alors, on va terminer. La bibliothèque des amis d'instruction vous offre cette soirée autour de plein de petits pains. Des petits pains, il y en a toutes les sortes. Eh bien, pour nous parler de toutes ces sortes de pains, je me suis demandé si on pouvait pas trouver au 19e siècle un livre qui décrive tous les pains que les gens avaient au 19e siècle. Alors, je l'ai trouvé, parce qu'on trouve tout. Non seulement dans les livres, mais à la bibliothèque des amis d'instruction, puisque ce livre, ils le font ici, « Le boire et le manger », d'un journaliste, qui est un journaliste de un peu d'art, un petit peu de tout en fait, et puis qui nous compte ici une histoire anecdotique des aliments. Alors, anecdotique, c'est souvent un titre, un sous-titre ou un complément du titre qu'on retrouve dans le livre de cette époque, une propose anecdotique sur la science. C'est toujours cette volonté de faire une science aimable, gentille, à la portée de tous les gens, finalement, en utilisant beaucoup d'anecdotes. Et encore une fois, je crois que ce qui a été perdu un peu dans la vulgarisation des sciences contemporaines, c'est ce poids des anecdotes. Maintenant, une vulgarisation plus technique, plus technicienne. Donc, je termine par le pain d'Armand Dubarry. Aujourd'hui, la moyenne de la consommation dépasse quotidiennement 600 grammes par tête. La cherté excessive des vivres, que ne corrige pas l'élévation insuffisante des salaires, fait que pour des milliers de familles, le pain fournit les 3/4 de l'alimentation. Dans ce cas, il peut même en manger davantage. Chez les ouvriers, dont le labeur exige une grande dépense de force, la consommation n'est pas moindre d'1 kilo par jour. Prenez une famille de 5 individus. Mettez le pain à 45 centimes le kilogramme, taux qu'il atteint trop fréquemment, et vous reconnaîtrez que la gêne doit fatalement s'introduire dans cette famille dès que l'un des deux chefs, le père ou la mère, manque de travail. Le pain étant l'aliment nécessaire entre tous, le premier des aliments, il a de toute antiquité personnifié la vie matérielle. À Dieu, le croyant demande du pain. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Aux hommes, au gouvernement, dans les moments de crise sociale, les prolétaires réclament du pain. Du pain, c'est-à-dire la vie. Nous n'entrerons pas dans le détail de la boulangerie, car cela nous entraînerait trop loin. Nous dirons seulement qu'on désigne les pains par leur forme. Pain rond, long, cornu, à couronne, ou par leur pâte et leur qualité. Pain de pâte ferme, pain mollet, pain blanc, pain pie. Jadis, on avait une infinité de sortes de pains de fantaisie, uniformément faits avec de la belle farine de froment, et où il entrait soit du lait, soit du beurre, soit du jaune d'œuf. Par exemple, le pain à la reine, le pain à la Montauron, le pain de Gentilly, le pain de Condition, le pain de Ségovie, le pain de Gonesse, le pain chaland, le pain mouton, Nous ne sommes pas moins favorisés sous ce rapport que les consommateurs du XVIIIe siècle. Et l'on peut dire que nos boulangers sont passés maîtres dans l'art de panifier. Témoin, le pain riche, le pain dit viennois, le pain de gruau ou de fines fleurs de froment, le pain de gluten inventé pour les diabétiques, et quantité d'autres variétés de pains succulents qui tendent à rapprocher la boulangerie de la pâtisserie. Mentionnons encore le pain de munitions, fait avec de la farine de froment blutée à 15%, ou dont on extrait 15 kg de son sur 100 kg de grains moulus. Le biscuit de mer, pain de pâte ferme découpé à l'emporte-pièce en tablettes qui sont ensuite percées de trous pour faciliter l'échappement des gaz qu'elles renferment et les empêcher de lever. Les Grissini de Turin, petit bâton de 30 à 40 cm de longueur, très croustillant, fabriqué avec de la farine de gruau, léger à l'estomac et agréable au palais. Le pain béni, réminiscence des agapes des premiers siècles du christianisme, et le pain d'épices qui est, à Paris, l'objet d'une foire fameuse. Le pain béni est mêlé d'œufs et de beurre. Le pain d'épices est un composé de belle farine, de miel et d'épices, cannelle et clous de girofle réduits en poudre, auxquels on ajoute à volonté des amandes, des zestes de citron et des écorces d'orange confits et hachés menus, de l'anis et de la coriandre. Il y a tout ça dans le pain d'épices. Voilà, Armand Dubarry, 1884, les types de pain, mais aussi, vous voyez, une petite réflexion économique sur la cherté de la vie et les ouvriers qui avaient besoin de manger 1 kg de pain. Et on n'en est pas là. Voilà, donc merci de votre attention. Oui, juste avant le café.
Le plan de café de Hollande, il venait d'où avant ?
Arabie ?
Ouais. D'Arabie, donc Arabie, Hollande et puis France.
On importait beaucoup d'arbres, à la fois des visées économiques, mais aussi pour le plaisir d'avoir des arbres exotiques. Ouais. Donc le café au départ, c'était un mélange des deux. Mais les Hollandais n'avaient pas eu l'idée de développer. C'est-à-dire, les Hollandais n'avaient pas des jardins botaniques au style du Jardin du Roi, qui était le lieu mondial, à la limite, au début du 18e, où on faisait des choses. C'est l'époque où les naturalistes voyageurs ramenaient toujours des plantes au Jardin des Plantes. Et ensuite, le jardin des pamplemousses, on essaie d'acclimater tout ça, de Paul et Virginie, de l'île Maurice. Donc, l'idée, c'était donc de le bouturer, parce que c'est un arbre qui se bouture facilement. Il y a cet aspect-là, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attendre la graine pour en faire. On fait des boutures et elles reprennent. Donc il y a déjà toute une technique assez complexe pour faire les boutures. Et le seul plant de café qui a traversé l'Atlantique, ben, il a suffi de le bouturer plus facilement, parce qu'il était de nouveau dans des conditions de vie... au moins la chaleur, pas tellement l'humidité, mais la chaleur. Donc tout le café américain, tous les plants viennent de ce plant de café-là. Sauf des plants qui ensuite ont été apportés, parce qu'après il y a eu des croisements.
Mais curieusement, le caféier donc est venu du Yémen et de l'Éthiopie. Et ensuite, en 1900, le premier café qui se monte, c'est à Marseille. Et ça vient toujours du Yémen, au moment où il est popularisé à ce moment-là. Et c'est avec les voyageurs. Ça a été beaucoup développé parce que sur l'histoire du café, il y a eu beaucoup de choses. Et en particulier tous les livres qui sont sortis sur Rimbaud. Enfin, bon, parce que c'est l'itinéraire et c'est l'époque aussi. Et donc c'est l'époque des voyageurs et de la Corne de l'Afrique. Et c'est aussi avec ça qu'on est plus sensibilisé... Et moi, j'étais intéressé de voir, je connaissais pas l'histoire scientifique du caféier, mais je connaissais l'arrivée du café vers les années 1900.
L'histoire du caféier, c'est un peu l'histoire du Jardin Royal des Plantes Médicinales. Enfin, c'est une partie de l'histoire du Jardin Royal des Plantes Médicinales, donc du muséum, ce qu'on appelle maintenant le Jardin des Plantes, hein, qui est aussi un lieu extraordinaire où on fait des parcours de temps en temps. Vous avez les statues, vous avez les serres, vous avez les arbres. Ça, c'est des traces historiques de la vie du Jardin des Plantes. Et puis, si la vie de Paris, parce que le labyrinthe que vous connaissez peut-être avec ce kiosque de Buffon, la gloriette de Buffon.
Que depuis qu'a visé la science, comme ça, il n'y avait pas un risque de paraître dévaluer le savoir scientifique.
Ah bah ça, c'est un peu ce que disaient les scientifiques qui étaient contre la vulgarisation. Ça, c'était un argument des scientifiques contre la vulgarisation. Les gens qui, comme Armand Dubarry, ou Arthur Mangin, ou Jean Massé, eux, non, c'est tout le contraire. Ils avaient de cesse de donner ce savoir au maximum de gens, pour en faire différentes choses. Certains, c'était pour rendre l'ouvrier plus autonome. D'autres, c'était simplement pour partager le savoir, mais au sens valoriser l'homme qui a produit ce savoir. Et puis il y a une troisième version des raisons de vulgariser, il y a aussi la version apologétique de la science. Alors ça, c'est la version Victor Meunier. À travers les gens dont on a parlé ici, Raspail, c'est faire partager le savoir pour que les gens soient plus autonomes. Jean Massé, c'est l'aspect l'homme qui a produit ça, donc on doit vénérer à la fois l'homme et bon. Et puis alors il y a l'aspect, le troisième aspect, Victor Meunier, là c'est vraiment à la gloire de la science. Avec une idée, la science va pouvoir balayer la religion. C'est ça en fait qui était en cause, la science contre la religion. Donc on a comme ça trois variantes, et les vulgarisateurs peuvent se catégoriser comme ça selon leur idéologie. Puis il y avait ceux qui étaient contre la vulgarisation parce qu'ils pensaient que la science comme ça était pervertie. Et puis ceux qui étaient contre, non pas la vulgarisation, mais contre les vulgarisateurs. C'est-à-dire qu'ils estimaient que c'était les scientifiques eux-mêmes qui devaient vulgariser. Et là, il y en a un que vous connaissez. Pasteur était pas contre la vulgarisation, mais lui faisait quasiment les billets. C'était lui, l'Agence France-Presse. Non, quand il y avait besoin d'un article, il préférait faire l'article lui-même plutôt que les journalistes le fassent et transforment. Parce qu'en fait, ce qui est assez normal dans sa pratique, parce qu'il s'opposait beaucoup aux journalistes républicains, lui étant conservateur, et il lui disait, messieurs, les dix journalistes scientifiques, vous transformez ce que je raconte. Il voulait vulgariser lui-même. Voilà, donc du côté des scientifiques, il y a aussi plusieurs variantes. Quoi. Et puis il y a les scientifiques qui vulgarisaient eux-mêmes, mais... qui n'avait rien contre les journalistes qui vulgarisaient. Comme François Arago. François Arago vulgarisait et était content qu'il y ait des journalistes qui vulgarisent aussi. On n'a donc pas un modèle, voilà. Ni de scientifique, ni de vulgarisateur. C'est ça qui est à la fois agréable et compliqué quand on les regarde, parce qu'en fait, à chaque fois qu'on en rencontre un, on est toujours obligé de se dire, avant d'entrer dans son livre, quel genre d'homme était-ce ?